Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il est, mes frères, dans l'Évangile, une prophétie qui passe parfois inaperçue et qui pourtant s'est accomplie de façon grandiose, au point que nous en avons encore la réalisation sous les yeux. C'est la prophétie de la Vierge Marie. Car la reine des prophètes n'a pas seulement été prédite et décrite par les oracles de l'Ancien Testament, elle a elle-même prophétisé. Elle n'a pas seulement accompli les prophéties, elle les a complétées, perfectionnées et comme couronnées dans le cantique qu'elle a entonné en présence de sa cousine Élisabeth. Ce cantique de la Sainte Vierge, le Magnificat, n'est pas seulement un chant de joie et d'action de grâce, où l'on voit déborder toute l'allégresse et la reconnaissance qui inonde son cœur, c'est l'écho de très nombreux passages de l'Ancien Testament qui montrent que la reine des prophètes puise à sa guise dans le trésor des Saintes Écritures et s'est en usée avec une parfaite maîtrise en légitime héritière. Mais c'est aussi une nouvelle annonce faite avec grande confiance sous la motion de l'Esprit Saint, « Beatam me dicent omnes generationes »« Toutes les générations me diront bienheureuse. » Pour bien comprendre la portée de cette prophétie, « Toutes les générations me diront bienheureuse », il faut regarder le contexte. La Vierge Marie annonce l'avenir, mais sans oublier le passé. Elle fait le lien entre les deux, en mentionnant la promesse faite à Abraham et à nos pères, et en rappelant comment, déjà, le plan de Dieu s'est manifesté dans toute l'histoire sainte. Car, dit-elle, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ce plan divin s'étend sur toute l'histoire du monde, mais il a un centre. Et Notre-Dame est parfaitement consciente d'être située en ce point central de toute l'histoire humaine. Toutes les générations me diront bienheureuse. Elle n'en tire aucune fierté, aucun orgueil, aucune complaisance en elle-même. Elle souligne au contraire qu'elle n'y est pour rien, et que tout vient de la miséricorde de Dieu qui a daigné jeter les yeux sur la bassesse de sa servante. Mais elle ne méconnaît pas la grâce qu'elle a reçue, et avec autant d'assurance que d'humilité, elle chante « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Cette prophétie de la bienheureuse Vierge Marie, mes frères, nous venons à notre tour la réaliser. Des petits-enfants aux arrière-grands-parents, toutes les générations de l'âge présent sont ici réunies pour la proclamer bienheureuse, comme l'ont déjà fait tant de nos ancêtres. Et on peut même dire, d'une certaine manière, que cet hommage remonte au premier jour de l'humanité. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », avait dit Dieu au commencement du monde. « Faisons-lui une aide semblable à lui. » La complémentarité de l'homme et de la femme est vraiment dans l'Écriture sainte une vérité fondamentale affirmée dès le premier chapitre. Après avoir dit que Dieu créa les humains à son image, l'auteur sacré tient immédiatement à préciser que Dieu les créa hommes et femmes. Adam et Ève sont évidemment le modèle de tous les couples qui devaient ensuite se former au cours de l'histoire. Mais cette complémentarité prévue pour le bien peut malheureusement servir au mal. Et on la retrouve dans la révolte contre Dieu qui a constitué le péché originel. La complémentarité a dégénéré en complicité. Et si la faute principale fut celle d'Adam, qui a péché en tant que chef et principe du genre humain, Ève y a activement participé. Juridiquement, c'est le péché d'Adam qui importe, car il avait autorité. Par sa décision insensée de se soumettre au serpent et de se révolter contre Dieu, il entraînait toute l'humanité, de même qu'un chef d'État peut entraîner toute sa nation dans une guerre désastreuse ou dans une capitulation honteuse. Mais en pratique, ce fut tout de même un péché collectif où l'homme et la femme eurent chacun leur part. Adam, d'ailleurs, ne se prive pas de le faire remarquer à son Créateur. La femme que tu m'as donnée comme compagne m'a donné le fruit et je l'ai mangé. Dieu ne relève pas l'insolence, car si cette première expérience a tourné au désastre, il ne l'a laissé s'accomplir que pour permettre une réparation plus belle encore, plus belle que si le mal n'avait jamais eu lieu. Et mystérieusement, il laisse entendre que l'humanité ainsi vaincue par le diable aura sa revanche. Il le dit au serpent : « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Elle t'écrasera la tête et toi, tu l'attaqueras au talon. » Elle t'écrasera la tête. De qui s'agit-il précisément ? De la femme ou de la descendance ? Dans son obscurité, l'oracle laisse entendre en tout cas qu'à la défaite commune du premier homme et de la première femme succédera un jour une victoire commune. Associés dans le premier péché, ces deux parties complémentaires de l'humanité le seront aussi dans la réparation. Seulement le schéma ne sera plus le même, car en parlant d'une femme et de sa descendance, la prophétie indique clairement que la nouvelle Ève ne sera pas l'épouse, mais la mère du nouvel Adam. Bien sûr, cette prophétie n'est pas passée inaperçue, et les premiers chrétiens ont immédiatement vu le parallèle entre Ève et Marie. Au IIe siècle, donc très tôt dans l'histoire de l'Église, saint Justin développe ce contraste dans son dialogue avec le juif Tryphon. Ève, dit-il, Ève était encore vierge et sans péché lorsqu'elle s'est laissée tromper par la parole du serpent et qu'elle a engendré la désobéissance et la mort. Mais la Vierge Marie a accueilli la parole de l'ange Gabriel et par sa foi et son obéissance, elle a engendré celui qui a écrasé le démon et vaincu la mort. Le parallèle est très clair et on le retrouve toujours au IIe siècle chez saint Irénée qui compare Ève qui, en désobéissant, est devenue cause de mort pour elle-même et pour tout le genre humain, et Marie qui, en obéissant, est devenue cause de salut pour elle-même et pour tout le genre humain. Il ajoute : ce que Ève, encore vierge, a lié par son incrédulité, la Vierge Marie l'a délié par sa foi. Saint Justin était à Rome, saint Irénée était originaire d'Asie Mineure, et peu après, c'est en Afrique que Tertullien développe la même comparaison. Ce sont donc les églises des trois continents, Asie, Europe, Afrique, qui, dès l'origine, honore la Vierge Marie comme la nouvelle Ève. Et en fait, cette comparaison n'était-elle pas contenue dans la salutation de l'ange Gabriel ? « Je vous salue Marie, pleine de grâce, » dit-il, avant d'ajouter « Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Bénie entre toutes les femmes. Qu'est-ce que cela signifie ? Ève, qui avait été créée sainte et innocente, a attiré la malédiction divine sur elle-même et sur tout le genre humain. La terrible sentence « Tu enfanteras dans la douleur » ne se rapporte pas seulement à la naissance des enfants, mais ensuite à toute leur éducation, car ils héritent tous de la révolte initiale contre Dieu et de diverses blessures ou déséquilibres qui en sont les conséquences. Si vraiment Marie est bénie entre toutes les femmes, elle a dû être protégée de cette malédiction. Elle a même dû recevoir une grâce bien supérieure à celle de nos premiers parents. Et ici, on peut se poser la question, Marie aurait-elle donc été créée comme eux, dans l'état primitif d'innocence? A-t-elle échappé aux besoins d'un sauveur? Mais si c'est le cas, comment descend-elle vraiment d'Adam et Ève? Et quel lien, quelle solidarité a-t-elle avec notre race? Et l'on touche ici, mes frères, le dilemme qui s'est posé pendant plusieurs siècles aux théologiens. D'un côté, il répugne que Marie, mère de Dieu, ait été atteinte si peu que ce soit par le péché et soumise un seul instant au démon. D'ailleurs, la parole de l'ange est très claire. Elle est absolument comblée de grâce et elle est bénie entre toutes les femmes. Cela ne laisse pas de place pour le péché originel. Mais de l'autre côté, il répugne également qu'elle n'ait aucun lien avec la race d'Adam et Ève, comme si elle avait été créée à part, sans réellement hériter la nature humaine de nos premiers parents. Et d'ailleurs, là encore, l'Écriture est très claire. Mon âme exulte de joie en Dieu, mon Sauveur, dit la très sainte Vierge. Mon Sauveur, elle a donc été sauvée. On ne peut prétendre qu'elle ait échappé à l'économie du péché et du salut. Il faut donc tenir à la fois que Marie est parfaitement sainte et sans péché, et en même temps qu'elle a eu besoin d'un sauveur. Et l'Église a toujours tenu ensemble ces deux vérités, même si les théologiens ont longtemps hésité sur la façon de les concilier. Cependant, peu à peu, la lumière s'est faite. La Vierge Marie appartient bien à notre race, celle des enfants d'Adam et Ève, et donc à l'économie du péché et du salut. Comme nous, elle a besoin d'un sauveur. Comme nous, elle aurait dû hériter du péché originel. Mais elle a reçu la grâce du sauveur d'une façon spéciale. Selon un mode préventif et non curatif. Si bien que son âme n'a jamais été dans l'état de révolte contre Dieu qui caractérise le péché originel. Et si elle n'a pas été créée dans l'état d'innocence primitive qui caractérisait Adam et Ève, on peut dire qu'elle a reçu une bénédiction bien supérieure, puisque sans être salie un seul instant par le péché, elle a reçu une marque d'amour incomparablement plus grande de la part du Sauveur, qui ne l'a pas seulement créée gratuitement dans l'état de grâce, mais qui a réellement voulu payer cette grâce avec son sang. La Sainte Vierge a donc bel et bien été sauvée, mais sauvée d'une façon spéciale, à part. Et si l'on avait le temps, on pourrait, mes frères, relire ensemble son cantique, le Magnificat, pour y trouver confirmation de ce privilège de l'Immaculée Conception. On y voit clairement que la Vierge a été sauvée, elle chante Dieu son Sauveur et les merveilles opérées par sa miséricorde. Elle s'humilie devant les bienfaits divins, elle avoue qu'elle était indigne de les recevoir, mais elle n'a pas un seul mot pour demander pardon d'une faute, regretter une souillure ou s'affliger d'avoir été fût-ce un instant dans le camp de l'ennemi. Elle s'humilie autant qu'elle peut, mais dans la vérité, et en vérité, elle ne peut s'accuser ainsi. De même, elle remercie le Tout-Puissant d'avoir regardé sa bassesse, mais non de l'avoir pardonnée ou lavée d'une faute quelconque. Mais le plus important et sans doute le plus consolant pour nous, c'est de voir que Marie ne se désolidarise jamais des autres humains. Et c'est frappant dans ce cantique. Elle a reçu un privilège unique, mais elle le lie à la miséricorde de Dieu qui s'est exercée sur toutes les générations. Et elle sait que toute l'humanité va en profiter. Et c'est précisément pour cela que toutes les générations la diront bienheureuse. Car mes frères, en louant la bienheureuse Vierge, en la chantant, en l'honorant, comme nous allons le faire dans la procession, nous ne glorifions pas un personnage du passé, ni une célébrité inaccessible. Nous honorons notre mère, toujours proche, toujours attentive à nos besoins, toujours soucieuse de distribuer cette grâce qu'elle a elle-même reçue de façon surabondante, mais qu'elle a reçue comme mère et qu'elle a reçue pour la distribuer à ses enfants. En la déclarant bienheureuse, nous participons à son bonheur et nous nous rendons nous-mêmes déjà bienheureux sur cette terre en attendant, avec son secours, d'être bienheureux dans le ciel. Que la Vierge nous y mène, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.